Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous. Un nouvel épisode aujourd'hui de Chronique d'un siècle présenté par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de ces belles courtisanes du Second Empire qui firent la loi de la grande bourgeoisie. Lors du premier épisode, nous nous étions arrêtés sur leur manière de vivre, leur journée de femme frivole, joyeuse et en même temps assez intelligente pour s'élever non seulement par l'argent, mais aussi par leur curiosité d'esprit, l'envie de se cultiver. En un mot, par l'envie de s'élever socialement, elles qui, pour la grande majorité, étaient issues de milieux sociaux extrêmement défavorisés. Gustave Claudin, dans Paris, parle de ces fameuses courtisanes qui envahirent la capitale. Paris est la seule ville du monde dans laquelle on rencontre partout ces beautés fascinantes et dangereuses que M. Prudhomme appelle nos modernes frinées. La place qu'elles tiennent dans la société paraît d'autant plus large qu'elles sont de nature voyante et tapageuse. La littérature et le théâtre ont choisi parmi elles, dans ces derniers temps, leur héroïne de prédilection. Peu à peu, les courtisanes passant par les demi-mondaines influencèrent les grandes dames de la haute société. Et sous le Second Empire, on ne pouvait parfois pas faire la différence, ainsi que le souligne le journaliste Maxime Rude dans son roman « Roman d'une dame d'honneur » écrit en 1879, soit 9 ans après la chute de l'Empire. Il y avait en ce milieu un parfum singulier que la marquise ne s'expliquait pas. Celui de grandes dames, vraies ou fausses, usant le même rouge, la même poudre, les mêmes amants que les filles des avant-scènes de théâtre et de la rive gauche du lac. Dès que l'impératrice, qui, dans son cercle, réprimait avec affectation les mots un peu vifs et les anecdotes croustillantes, s'était éloignée, ou dès qu'on sortait de ses appartements, il y avait des reprises impatientes de conversation, des chuchotements à l'oreille et des rires étouffés, comme dans un coin de boudoir galant ou sur un palier de maison interlope. Un petit intermède pour vous emmener dans le monde de l'impératrice Eugénie avec la valse des violettes d'Émile Waldteufel, 1837-1915, qui fut le directeur de la musique de danse de la cour impériale de Napoléon III et qui devint aussi le pianiste attitré de l'impératrice.
Thank you.
Cela ne vous donne-t-il pas envie de danser la valse ? On le sait, les courtisanes connaissaient les secrets de beauté. Cela, je vous en avais quelque peu parlé dans le premier épisode. Claudin, toujours dans son ouvrage Paris, écrivait « Elles connaissent tous les artifices de l'ange Azaliel qui enseigna, comme on sait, aux filles de la terre l'art de se farder. Elles ont, dans un boudoir spécialement destiné à cette importante opération, les essences, les parfums, les couleurs, les poudres et les pinceaux avec lesquels elles peuvent à volonté, et selon les exigences de la situation, produire les chairs argentées, givrées, neigeuses, laiteuses, boréales et nacara, toute perfection qu'on ne rencontre qu'à Paris. Elles possèdent aussi le précieux don d'iriser les cils, d'illuminer les yeux, de pailleter les cheveux, de moirer le front et de chiner les joues. Espièglerie originale, dépravation de décadence à l'aide desquelles se sont opérées tant de fois des fascinations lucratives. Elles font leur figure pour la ville, absolument comme les comédiennes pour la rampe. À propos des fossiles, voici ce qu'écrivaient les frères Goncourt le 11 janvier 1881. Elle a perdu les fossiles que seule sa mère s'est posée. Enfin, on attrape la mère dans un coin derrière un paravent de femme, on refait le regard velouté d'Ida de Barancy. Cette grue, ainsi que la surnomme les Goncourt, avait été déniaisée par Napoléon III. Et à la suite, plusieurs clients lui furent attribués, comme le duc de Morny, le richissime Deminov et tant d'autres. Et tout cela avec l'encouragement des parents. Il faut quand même savoir que c'était la mère qui fixait les prix. Il y avait encore une autre méthode pour rester jeune. C'est celle de l'émaillage. Charles Virmaître, un écrivain qui a laissé de nombreux témoignages sur son époque, qui était né en 1835 et qui est mort en 1903, écrit dans « Ces dames du grand monde par une femme qui n'en est pas », écrit en 1868, écrit donc « À propos du programme, n'allons pas oublier la visite à l'émailleuse. L'émailleuse, une importation d'outre-Manche. À ce sujet, constatons que le maquillage est distancé. Aujourd'hui, on a trouvé moyen de passer les femmes à l'émail. » Comme les soupières, et de leur refaire une jeunesse. Un ou deux billets de banque sont le prix de cette préparation délicate. Délicate, en effet, car la dame, une fois émaillée, doit veiller au rictus de son visage et ne pas sourire d'une façon trop prononcée sous peine de faire éclater des fissures à ses joues et de produire des dégradations dans ses charmes factices. À ces conditions, les chairs les plus ravagées empruntent les apparences de la porcelaine la mieux réussie. Et les femmes les plus marquées peuvent encore faire battre des cœurs de jeunes hommes. Ça, c'était pour le maquillage, mais il y avait aussi les robes. Les fameuses robes de chez Wörth. Et les dessous à friolant. Je vous l'avais dit dans le premier épisode, les corsets, pour une femme honnête, était blanc, le blanc étant signe de pureté. Les courtisanes vont les colorier et elles vont employer du satin, de la soie, du brochet, textile qui n'était pas employé par les honnêtes femmes. Il faut lire le livre de Lola Montès, la célèbre courtisane qui mourut à l'âge de 40 ans, pauvre, oubliée de tous, là-bas aux États-Unis. Non seulement elle a écrit sa biographie, enfin son autobiographie, mais elle a laissé un petit livre d'une petite centaine de pages qui s'intitule « L'art de la beauté ou secret de la toilette des dames ». suivi de petites instructions aux messieurs sur l'art de fasciner. Ça, c'était un petit clin d'œil. Ce livre qu'elle écrit en 1859 est une mine pour les femmes, grandes dames, courtisanes ou demi-mondaines. Lola Montès fut une courtisane célèbre, comme je vous l'ai dit, mais qui surtout côtoya des écrivains comme George Sand et aussi tous les intellectuels de l'époque. Elle eut des amants célèbres comme Liszt, comme Dumas fils, et surtout comme Louis Ier de Bavière, qui de courtisane en fit une comtesse et une chanoinesse de l'ordre de Sainte-Thérèse. Ces dames se devaient de rester belles longtemps pour les amants potentiels, mais aussi pour des événements tels que l'exposition universelle de 1867. Cette exposition reste dans les mémoires grâce à l'hymne à Napoléon III et à son peuple, composé par Rossini un an avant sa mort. À ce moment-là, toutes les femmes qui se devaient de rester belles étaient mélangées. C'est-à-dire qu'il y avait les courtisanes, mais il y avait aussi les demi-mondaines. Ces demi-mondaines qui firent le lien entre les courtisanes et les femmes du monde. Alors qui étaient-elles ? À la différence des courtisanes, elles venaient d'un milieu privilégié. Comme je l'ai déjà dit, il y avait peu d'horizon pour une femme, si ce n'est de se marier et d'être une épouse vertueuse et une mère aimante. En fait, quand une femme du monde voulait se libérer, elle se mariait sans amour, elle prenait un amant, s'arrangeait pour être prise en flagrant délit, qui aboutissait à une séparation, voire à un divorce, mais elle prenait un grand risque, puisque le mari, à l'époque, avait le pouvoir de la tuer sans avoir ensuite de poursuite judiciaire. D'ailleurs, il pouvait, dans la foulée, tuer l'amant. Mais si le drame n'avait pas eu lieu, elle se retrouvait libre. Enfin, libre avec guillemets, puisque la garde de ses enfants ne lui était pas confiée. Et quelquefois, on lui interdisait même de les voir. Alors, ces courtistes, enfin, ces femmes, celles que l'on appelait des demi-mondaines, comme je l'ai dit, elles venaient d'un milieu privilégié, soit de la haute bourgeoisie, soit de l'aristocratie. On les appelait aussi des demi-castors. Le terme demi-castor est un terme argotique, pas très élégant, puisque le demi-castor évoquait le chapeau d'homme sur lequel la fourrure de castor était mélangée à de la fourrure moins chère. Ce terme de demi-monde fut lancé par Dumas fils en 1855 pour sa pièce qui se nommait « Le demi-monde ». Le terme de demi-monde fut lancé par Dumas fils en 1855 pour sa pièce qu'il nomma « Le demi-monde ». Arsène Houssaye, dans ses Confessions, écrit à propos de ces femmes déclassées. Le demi-monde n'était pas créé parce qu'alors les femmes tombées de l'aristocratie tenaient toujours les filles à distance. Peu à peu, pour s'amuser ou parce qu'un amant était le trait d'union, on vit le miracle de la confusion. Cette confusion des coquines et des femmes bien nées, des marquises et des comédiennes, fut une révolution dans les mœurs beaucoup plus grave qu'on ne l'imaginait. La création du demi-monde fut la fin d'un monde. Et Houssaye continue sur sa lancée en écrivant. Les mondaines et les demi-mondaines ont commencé à se coudoyer dans les bals de charité et aux courses de chevaux. À première vue, c'étaient les mêmes femmes, habillées par les mêmes couturières, avec cette nuance que les demi-mondaines avaient plus de chic que les mondaines. Le mot « chic » est de ce temps-là, du moins chez les femmes, puisqu'il existait dans le dictionnaire des artistes. Ces femmes déclassées, ainsi que les noms Arsène Houssaye, étaient des femmes du monde qui avaient eu envie à un moment d'une autre vie. Comme je vous le disais tout à l'heure, sortir d'un mariage pesant ou d'un mariage dans lequel elles avaient eu des déconvenues à tous les points de vue. Mais il y a aussi le fait qu'une femme du monde pouvait avoir fauté, comme on disait à l'époque, mais elle pouvait aussi avoir subi un vol, un viol, ce qui revenait au taux même. Je vous l'ai déjà dit dans la première partie, la société et la famille ne pouvaient plus espérer un mariage idéal dès qu'une fille avait été violée. Puis il y avait aussi des femmes du monde qui rêvaient d'aventure. Alors, avec l'argent hérité, elles voyageaient et menaient ainsi la vie qui leur plaisait. Mais cette catégorie fut beaucoup plus rare que les autres. Frédéric Lollier a écrit « La fête impériale », qui rappelle cette vie de fête, de joie, de superficialité qui fut la spécialité du Second Empire. Et voici ce qu'il écrit à propos de Dumas fils, qui avait lancé ce demi-monde. Il en adoucit l'image par l'idée de déclassement, l'opposant à l'idée d'intéressement que l'on trouvait chez les courtisanes. Dumas fils, géographe d'une terre nouvelle apparue subitement à l'horizon parisien, lorsque créant le vocable « demi-monde », il avait voulu désigner la catégorie intermédiaire des déclassés, séparée des femmes honnêtes par le scandale public et de la cohue des courtisanes par le désintéressement dans la faute. Lorsque l'on parle des demi-mondaines du Second Empire, on ne peut s'empêcher de parler de la Castiglione que l'on retrouve dans beaucoup de souvenirs et de témoignages. Parmi tous les documents, j'ai choisi de vous lire quelques extraits tirés des mémoires du comte Horace de Vielcastel, surnommé à l'époque Fielcastel en raison de sa langue de vipère. Mercredi 23 juillet 1856. À la dernière fête de Villeneuve-l'Étang, la comtesse de Castiglione s'est longtemps égarée. Mercredi 23 juillet 1856. À la dernière fête de Villeneuve-l'Étang, la comtesse de Castiglione s'est longtemps égarée dans une île placée au milieu du petit lac avec l'empereur. Elle en est revenue, dit-on, un peu chiffonnée, et l'impératrice a laissé voir quelques dépits. J'ai interrogé des piémontais sur la fortune du couple Castiglione. Il ne lui reste que 18 000 francs de rente, et son train accuse une dépense de 60 à 80 000 francs. La comtesse Castiglione a été la maîtresse du roi de Piémont, et je crois être certain que Nieuwekerk a couché avec elle. Elle veut louer pour cet hiver l'hôtel portant le numéro 17 rue de Matignon, qu'occupent en ce moment mes amis, le prince Portial, la comtesse Bologny, le comte et la comtesse Lita. Cet hôtel a un grand et étroit jardin qui, à son extrémité du côté des Champs-Élysées, jouit d'une petite porte donnant accès dans un bosquet touffu et par conséquent très favorable à l'introduction d'un visiteur qui craint la publicité. En effet, Castiglione fut la maîtresse attitrée de Napoléon III. Certains disent qu'elle fut envoyée comme espionne par Cavour, le premier ministre italien, est l'un des principaux acteurs de l'unité italienne. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, la Castiglione fut, dit-on, la plus belle femme d'Europe, et elle-même se considérait ainsi. Elle avait un corps parfait, une chevelure enchanteresse, et elle s'aimait presque amoureusement. Et pour cela, elle se fit photographier abondamment, sous divers déguisements, dans des robes somptueuses, et lorsqu'elle vieillit, elle choisit des mises en scène. Elle se faisait photographier une main, un pied ou une épaule, afin que ce qu'elle estimait être sa décrépitude ne se voie pas. Lorsqu'on feuillette les albums de ses photographies, on comprend vite qu'elle fut la première femme à avoir mis sa beauté en avant. Elle est en quelque sorte l'ancêtre des influenceuses et instagrammeuses qui se photographient à longueur de journée. Voici donc le deuxième extrait de Vielcastel. La comtesse Castiglione, que chacun dit être du dernier bien avec l'empereur, avait adopté le costume le plus fantaisiste et le plus hardi qui puisse être imaginé. Ce costume, moitié Louis XV, moitié actuel, portait pour titre « Dame des cœurs ». Les jupes retroussées sur le jupon de dessous, ainsi que le corsage, se trouvaient enlacés de chaînes formant des gros cœurs. La merveilleuse chevelure de la comtesse ruisselait autour de ses tempes, de son front, et retombait en cascade sur son cou. Le costume éblouissant d'or était magnifique, et quelques bons béotiens admiraient le talent de la comtesse pour subvenir avec 15 000 francs de rente à une vie de luxe et de plaisir. Les sages murmuraient « Il n'y a d'empereur que l'empereur et la Castiglione et son prophète. » Plus d'une femme laissait éclater sa jalousie. Les hommes, impartiaux, ne pensaient qu'une chose qu'ils ne disaient pas « Je voudrais être à la place de l'empereur. » Quant à la comtesse, elle portait avec insolence le poids de sa beauté. Elle en étalait les preuves avec ostentation. Nous ne saurions dire qu'elle fut décolletée, mais nous pouvons affirmer la nudité de sa gorge qu'entourait à peine une gaze zéphyre. L'œil en suivait le contour et les moindres détails, enfin la partie que la gaze elle-même laissait complètement à découvert, s'étendait jusqu'au bout des seins. Elle eut même l'audace de ne pas porter le contraignant corset, ainsi que l'écrit toujours Vielcastel. La fière comtesse n'a pas de corset. Elle poserait volontiers devant quelques fidasses s'il s'en trouvait un par le temps qui court. Et elle poserait parée de sa seule beauté. Sa gorge est vraiment admirable. Elle se dresse fièrement comme la gorge des jeunes mauresques. Les attache n'ont pas un pli. En un mot, les deux seins semblent jeter un défi à toutes les femmes. La Castiglione est une courtisane comme les Aspasies. Elle est fière de sa beauté et ne la voile qu'autant qu'il le faut pour être reçue dans un salon. Un homme lui a dit hier soir, en fixant sa gorge, « Je les connais maintenant, les deux superbes rebelles à tout frein. Prenez garde, comtesse. Tout à l'heure, les vêtements des hommes vont devenir trop étroits. » Cela est plus que leste. Cependant, le propos n'a pas déplu à la comtesse. La Castiglione était l'événement du bal. L'empereur ne connaît pas ceux qui partagent son bonheur. J'en sais qui font mille finesses pour éloigner tout soupçon et mille maladresses qui disent aux clairvoyants « Je couche avec la Castiglione ». La Castiglione ne fut évidemment pas la seule grande dame qui se vendit ainsi. Et Frédéric Lollier, toujours dans la fête impériale, énumère quelques noms dont il ne donne souvent que l'initiale. Pour en revenir aux demi-mondaines du Second Empire, au temps où ne s'était pas encore confondue la bande séparée de leur zone spéciale avec les terrains libres, où s'agitait la foule tapageuse des impurs, il se voyait là des pécheresses d'élite dont il eût été assez difficile de préciser à première vue la position sociale. Elles avaient les manières, les habitudes, le langage d'une société où elles ne s'étaient pas maintenues, mais qui avait été la leur. L'on constate que le lien de ces demi-mondaines a bien existé et qu'une certaine Madame de Brimont fut exclue de sa caste pour avoir des aventures trop signalées, mi-politiques ou simplement passionnelles. Et ainsi, petit à petit, les distinctions s'effacèrent. De jolies femmes indépendantes, nées dans la haute société, perdirent leur valeur, ainsi que l'écrit Frédéric Lollier, et devinrent avec joie des demi-mondaines. Ainsi, on ne fit plus la différence entre une baronne et une Anna des Lions, cette courtisane connue pour sa beauté, sa grâce et sa distinction. On arrive à la fin de cette émission sur les courtisanes, et pourtant il y aurait encore tant à dire si l'on prenait chacune d'elles pour raconter son histoire. Mais il n'est pas dit que vous n'entendrez plus parler d'elles sur Chronique d'un siècle. Ces femmes firent leur carrière sous Louis-Philippe, vers 1845, c'est-à-dire vers la fin de son règne, et sous Napoléon III, jusqu'à la chute de l'Empire en 1870. Elles commencèrent la Troisième République déjà fanée et furent vite remplacées par les grandes cocottes que vous connaissez comme la belle Othéro, Liane de Pougy, Cléo de Mérode. Ces grandes cocottes eurent du succès jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ensuite, les choses changèrent. Ces biches, ces grandes horizontales du Second Empire symbolisent l'arrivisme, car quelle que fût leur fin, elles eurent toutes à un moment donné hôtels, équipages, diamants, robes, tout ce qu'une femme avide de luxe pouvait rêver. Elles sont le symbole du capitalisme, de ce capitalisme naissant. Et de façon contradictoire, elles sont aussi un symbole de la libération de la femme. Libération sexuelle avant tout. Et en cela, elles sont celles qui montrèrent le chemin à ces femmes des années 1975 qui réclamèrent la liberté de leur corps, la liberté dans le choix de leur grossesse. Les femmes doivent beaucoup à ces biches, à ces belles horizontales qui ne craignaient pas les conséquences de leur vie. Jamais elles ne crièrent au viol, car c'est elles qui choisissaient. Elles ont su en ruiner certains. Elles ont su pousser d'autres au suicide. mais elle n'était pas soumise. Le terme « soumise », d'ailleurs, était réservé aux prostituées. Et la prostitution n'est pas la courtisanerie. Mais cela sera le sujet d'une autre émission. Si vous avez envie de poser des questions, ou bien si vous avez envie de commenter, de partager vos opinions, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site chroniquedunsiècle.com ou sur ma page Facebook Chronique d'un siècle. Je vous répondrai avec plaisir. En attendant, à très bientôt sur Radio Boomerang 89.7 FM pour une nouvelle aventure. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.